Bienvenue, vous entrez dans La Zone, le podcast qui part à la rencontre de femmes créatives et inspirantes. Une semaine sur deux, une artiste, une entrepreneuse, une actrice de changement se raconte. On parle de son parcours, de ce qui l'anime, de sa zone de génie. On parle de son rapport à elle-même, au monde et aux autres. Aujourd'hui à mon micro, Dominique.
La peur, elle est bonne à faire que les choses sont 20 fois, 100 fois plus grandes. Et c'est ça qui est fascinant et ce que j'adore en fait d'aller confronter mes peurs, c'est ça. Dès que j'ai réalisé à quel point chaque fois, c'était un, t'as ce sentiment de fierté, j'ai vaincu une peur, et deux, lol, c'était rien.
Quand je raconte que j'ai atterri à Montréal à 18 ans, avec mes deux valises trop lourdes pour moi, on me regarde souvent avec un air admiratif. On me dit que j'ai eu du courage quand même de partir si loin, si jeune. Mais moi, je ne me suis jamais trouvée courageuse. Juste naïve. C'est toujours plus facile d'oser quand on n'imagine pas un seul instant ce que l'on doit affronter. Quand on ne se rend pas compte de la montagne qu'il y aura à gravir. Étrangement, partir à plus de 5000 km de tout ce que je connaissais a été plus facile que de créer la zone. Il m'a fallu du courage pour que le son devienne mon médium de prédilection. Parce que j'avais peur. Peur de m'y autoriser. De m'y livrer corps et âme. De devoir parler à des femmes que je ne connaissais pas et me faire le porte-voix de leur histoire. De faire face à l'incertitude, au jugement des uns, au scepticisme des autres. Et puis, peur d'être vulnérable, d'être ridicule, de me mettre à nu, de dire n'importe quoi, de trop me découvrir, pour enfin rencontrer cette voix qui crie depuis le début qu'elle a aussi des choses à dire, mais dans un autre langage. Cette voix, Dominique lui a laissé toute la place. À travers la musique et malgré la peur. Elle en a fait sa thérapie, son laboratoire, son canevas grandeur nature, par nécessité, par survie, puis par pur bonheur, pour être libre, pour se sentir enfin elle-même. Et c'est parti pour durer, je crois.
It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me.
Avec Dominique aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage immersif, fait de silence, de douleur, de liberté et de musique.
You know how I feel. River running free, running free, just how I feel. Blossom on the tree, blossom on the tree. You know how it's a new dawn, it's a new day.
Bienvenue Dominique, bienvenue dans la zone, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation.
Merci, merci de l'accueil.
Dominique, tu es autrice, compositrice, interprète. Tu chantes depuis toujours, mais c'est après ton passage à l'émission The Voice, notamment Québec, donc La Voix en bon québécois, en 2015, où tu sors demi-finaliste, que tu vas sortir ton premier EP. Quelques années, donc environ 3-4 ans plus tard, puis une trilogie d'albums aux influences soul, jazz, funk, où on va retrouver des influences de Nina Simone, des influences de Billie Holiday, donc des chanteuses, mais aussi des sonorités qui, comme tu l'as dit en interview, ont absorbé toutes les émotions des Noirs, des communautés noires, à travers l'histoire, puis à travers leur art, et ensuite l'ont partagé avec le monde, puis c'est ce que tu essaies de faire aussi à travers ta musique. Tu es passée de la jeune fille qui s'enregistrait chanter sur le répondeur du téléphone fixe de sa maman à cette femme épanouie avec une voix assurée et assumée, on y reviendra aussi, qui chante notre histoire, celle des communautés noires, nos douleurs, nos espoirs, à travers notamment ta trilogie d'albums, donc Nameless, Stay Tuned et Three Little Words. Ce ne sont pas des albums pour moi, mais une véritable performance, étant donné la démarche artistique et intellectuelle qu'il y a derrière. D'ailleurs, tu as remporté le prix Juno de l'album Jazz Vocal de l'année et le Félix de l'album Jazz de l'année au gala de La Disque. Alors, pour ceux qui nous écoutent outre-mer, outre-Atlantique, c'est l'équivalent des Victoires de la musique en France. Et ça, c'était pour l'album Stay Tuned. Alors, il faut que je t'avoue un petit truc pour commencer. Oh. J'ai passé plusieurs semaines avec ta musique dans les oreilles, avec plein de podcasts, d'interviews. Je voulais être préparée et te connaître réellement avant de te parler et d'avoir cette discussion. Et le moment est venu hier où je devais réunir mes notes pour préparer en fait cet entretien. Et j'ai tout fait sauf ça. Nice. Je pense que j'étais vraiment paralysée par la peur de pas faire quelque chose de parfait, ou alors la peur que ce que j'avais imaginé de notre entretien ne matche pas en fait avec la réalité. Et bref, j'arrivais juste pas à travailler. J'ai finalement fini vers 2h du matin hier.
Oh wow.
Mais voilà, c'était assez compliqué. Je sais que c'est pas une façon très traditionnelle de commencer une conversation.
J'aime l'honnêteté.
Mais est-ce que ça t'arrive justement de procrastiner sur ton travail artistique? Parce que je vois le podcast La Zone comme quelque chose de profondément artistique, ouais, aussi. Et est-ce que tu en as identifié les causes de cette procrastination et comment tu la dépasses?
Je t'avoue que la procrastination fait partie de mon quotidien. Je l'ai accueilli à bras ouverts, en fait. Je pense que ça me simplifie la vie, en fait, d'avoir trouvé... Par exemple, il y avait un TED Talk qui parlait de pourquoi les esprits créatifs procrastinent. Et qu'ils ont même fait des études, ils ont essayé de pousser des gens qui avaient des tendances à procrastiner, les pousser à faire le travail en amont de manière régulière, blablabla, comme est suggéré, par exemple, à l'école, tu vois, des trucs comme ça. Et en réalité... le résultat était similaire ou moins bon. Parce que ce qu'on sous-estime, c'est combien il y a de parties de notre cerveau qui travaillent en parallèle dans la vie, tout le temps, constamment. Dès qu'il y a une idée ou un projet qui rentre, même qu'on le mette de côté, il n'est pas effacé. Notre subconscient sait qu'il est là et il va attraper des petits bouts d'informations pendant que tu vis ta vie. Et un jour, quand c'est le moment de tout cracher sur une feuille, ben tout est là déjà, en fait. Donc, ce qu'on peut interpréter comme la procrastination, c'est peut-être juste une autre forme de création à long terme subconsciente, de donner la place au subconscient de faire son travail. Puis, j'aime pas le stress, donc j'ai fait tout pour m'en débarrasser autant que possible, quand il est pas nécessaire. Je veux dire, on n'est pas... Il y a pas de lion qui me court après. Tu vois, le stress, normalement, c'est pour ça, c'est pour la survie. Donc, il n'y a pas mort d'homme. Donc, de me rappeler constamment que je vais y arriver, je vais le faire, je finis toujours par le faire. Donc, juste ça, ça m'aide à accepter.
Est-ce que, comme moi, tu finis par le faire, mais super en retard ou...
Limite. Mais limite, je m'améliore. Limite, ouais. Tu vois, avant, c'était vraiment plus que limite, c'était genre trop tard. Donc, après quelques échecs où tu as manqué ton cue, tu as manqué ton deadline, là, tu te dis, oh, ouais, OK, procrastiner, c'est cool, je m'accepte, mais genre, faut pas que je m'accepte trop. Donc, c'est trouver la limite entre aller trop loin, vraiment tomber dans « j'ai la flemme » ou juste « je me donne le temps de faire les choses à mon rythme » et de me garder en tête que... Donc, oui, ça m'arrive de le manquer, mais je trouve qu'avec la pratique, j'arrive à laisser le temps faire les choses et à me mettre en action juste à temps pour me donner un petit coussin de peut-être un jour ou deux au cas où il y a un imprévu. Oui. Donc, même des fois de me mentir, on va me mentir sur l'heure d'un truc, on va me mentir sur la date. Tu vois, question de d'avoir un
comme
petit
ça,
peu
si
de lousse.
Comme ça, si t'es un jour en retard, voilà. En fait, non,
bah,
t'es un jour
ça,
à l'avance.
C'est ça, t'es en avance, trop cool. Si on dit juste être en avance qui est à l'heure et pourtant... Moi, je fais tout ce que je peux pour être juste pile à l'heure.
Ouais. Est-ce que c'est ça que tu as fait à plus grande échelle pour ta carrière musicale? Parce que tu as commencé professionnellement quand même assez tard comparé à d'autres artistes. Quand tu t'es inscrite à La Voix, c'était The Voice, arrêter de... Voilà. Parce qu'en France, ils adorent parler en anglais, en tout cas, bref. Donc, l'émission, ok, je veux dire la voix. C'était il y a quoi, il y a 8 ans, 8-9 ans.
Ouais, à peu
presque,
près.
Presque, à peu près. Et t'avais déjà 30 ans, t'avais vécu toute une, enfin, plein de vie, en fait, avant. Et tu vois, t'as fait de la photo, t'avais des relations publiques, t'as parlé beaucoup de ton travail de psychologue, enfin, t'as étudié la psychologie, puis t'as travaillé auprès d'enfants autistes de 2 à 4 ans, t'as fait du soutien aussi à des employés. Mais bon, ton hypersensibilité a fait que t'as pas, c'était quelque chose qui te convenait plus, puis t'as même fait un burn-out. Puis j'arrive à m'identifier à toi par rapport à ça parce que je travaillais dans une clinique juridique.
Okay.
Où on donnait de l'information juridique à des personnes qui avaient pas d'argent pour se payer un avocat. Et ils arrivaient avec des situations qui étaient désastreuses.
Ah, ça devait être tellement difficile.
Ouais. C'était, et du coup, tu sais, quand je t'entendais parler, que tu parlais de ton métier, je me disais, mais c'est clair que c'est super difficile, surtout lorsqu'on a tout notre côté créatif qui nous parle en arrière et qui dit, mais tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. Puis t'as une sorte un peu de culpabilité de laisser des personnes qui ont besoin de toi, qui ont besoin de ton savoir. Et en même temps, est-ce que tu vois, tu te dis, ah, c'est peut-être moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Ah, c'est peut-être un peu égoïste d'honorer mon côté créatif. Et je me demandais si tu avais eu un peu ce même sentiment-là et si c'est ce qui t'avait mis autant de temps avant d'honorer, en fait, le fait que tu sois faite pour la musique.
Je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment un sentiment de « est-ce que c'est égoïste ?» je pense que les deux choses qui m'ont retenue le plus longtemps, c'était un, le sentiment profond que ma mission sur Terre est d'amener le plus de bien-être aux gens autour de moi que je peux, d'une manière ou d'une autre. Et dans ma tête, c'est comme ça que ça se faisait. Ça se faisait à travers le support psychologique, à travers que soi-même, je commençais à me questionner, est-ce que ce serait moins égoïste d'aller en art-thérapie, comme ça je donne, mais en même temps... je pense que la deuxième chose qui est venue me freiner, ça a été tout simplement la pression sociale, toutes ces idées, même si on ne les a pas imposées, tu les absorbes à travers ton cheminement, en regardant tes parents, les autres générations, etc., culturellement, qu'est-ce qu'une vraie job, entre guillemets, tu vois, donc artiste, c'est égal... Tu meurs de faim une rue, tu
précarité,
vois. Ouais, total,
c'est clair.
Misère, vraiment, c'est des mots super lourds, c'est genre. Et genre c'est ça où t'es obligé d'être multimilliardaire ou t'es à la rue. Et c'est comme s'il y avait pas de monde entre les deux. Et on nous présente pas énormément aussi le monde entre les deux. Donc il y avait cette peur de me dire mais qu'est-ce qui fait que moi, pourquoi je me lancerais là-dedans? J'ai pas fait d'études là-dedans, j'ai pas. Et l'autre côté. Je vais m'aider que moi, en fait. Je vais faire ce que j'aime, moi, et ça va être égoïste. Et en réalité, charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut pas oublier de se donner à nous, avant tout, pour pouvoir donner aux autres. Et on se dit toujours ça, ça a l'air évident. On peut pas boire d'un verre vide, etc. Mais de vraiment comprendre, absorber et incarner certaines réalités qu'on a comprises, c'est une toute autre étape qui peut complètement... dérouter notre chemin. Et c'est à partir de ce moment où, dès que j'ai réalisé que je pouvais pas, en fait, physiquement et mentalement, je ne pouvais pas rester dans ce monde. Tout ce qui était soutien psychologique pour les employés, c'était tellement lourd. Ça devait être la même situation que toi, d'entendre des histoires. Tu y penses dans ton lit la nuit, tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire un truc de plus? Tu te mets à la place des gens, tu vis la douleur avec eux. Tu n'aides personne en faisant ça, ça fait juste une personne de plus. Je veux dire, ça mène nulle part. Donc, c'était vraiment de trouver un moyen de me donner à moi. J'ai eu ce besoin d'abord de me guérir avant tout. Donc ça m'a permis de lâcher sur est-ce que c'est égoïste ou pas. C'était, mais t'as pas le choix. Là, t'es obligé de t'occuper de toi parce que t'as tout donné, il n'y a plus rien. Et en faisant ce processus de guérison sur moi-même, je me suis plus en plus ouvert à l'idée que si ça me faisait du bien à moi, si moi j'avais trouvé du bien-être en écoutant de la musique et de la guérison, peut-être que je pourrais transformer cette envie, cette impression que j'ai comme mission, la passer dans la musique et la transformer en fréquences, comme je dis souvent, qui vont traverser les gens avec toute ma bonne volonté de faire de mon mieux.
Quand tu parles du processus de guérison, tu parles de thérapie. Genre, t'es allée voir une psychologue.
Oui, mais il y avait une grosse partie qui s'est faite littéralement à travers la musique. Ça a été... Déjà, il y a quelque chose avec les fréquences, vraiment. La manière que je fais ma musique, ça a toujours été des loops, donc des répétitions de sons, un par-dessus l'autre. Ces répétitions de sons te mettent dans un état méditatif. Donc, c'est vraiment ça que je faisais. Je suis tombée dans la musique à fond. Je faisais que ça. Je passais toutes mes nuits à répéter des sons qui me faisaient du bien. Et après, trouver l'harmonie qui allait avec, ça me faisait du bien aussi. Je sais pas, il y a quelque chose qui vient vraiment me chercher. Puis après, de pouvoir exprimer, c'est comme si mon âme faisait les fréquences et les répétitions. Et après, mon cœur et ma tête et le reste venaient raconter une histoire qui avait envie de sortir. Et tout ça combiné, ça allège et ça permet de voir plus clair, ça permet de sentir connecté à nous-mêmes, après de sentir connecté à d'autres qui vont dire « Ah, j'ai tellement ressenti tel truc, j'ai tellement compris ». Les interprétations aussi qui sont toujours super différentes,
ouais.
Mais le processus lui-même était guérisseur. Donc thérapie, 100%, j'encourage tout le monde, toute forme de thérapie, trouvez la bonne pour vous. Mais la musique créée, peu importe que ce soit pour la vente plus tard ou pas, Créer. On est des créateurs, on est là pour ça. Quand on est enfant, on dessine. Personne nous dit qu'on va le vendre dans un musée ou, tu vois, on s'amuse. Donc, je pense qu'il faut... Donc, il y avait beaucoup de musique, beaucoup de peinture, puis toutes les formes de thérapie qui pouvaient me faire du bien.
Mais tu vois, quand tu parles du fait que ce soit une loupe et que tu répètes beaucoup les sons, etc., moi, ça m'a fait penser, et tu me diras si je me trompais, mais ça m'a beaucoup fait penser aux vocalises et aux harmonies que fait Brandy.
J'ai écouté du Brandy, moi aussi.
Une bible, on l'appelle toujours la bible vocale, puis qu'elle a certains runs qui sont vraiment spécifiques. Tu sais, quand on l'entend dire « Ah, ça, c'est le run de Brandy », où elle ouvre, en fait, elle ouvre toujours ses chansons avec certaines vocalises, tu sais, comme dans Aphrodisiac. Je vais pas le chanter parce que...
Allez, vas-y.
Non.
Chantez, tout le monde, chantez tous. Je veux que tout le monde chante.
Mais tu sais, quand elle fait « ta-ta-ta-ta-ta », voilà, et ben tu fais beaucoup ça aussi dans tes musiques. Tu l'as au début dans Old Love, tu l'as dans Rise, tu l'as dans Where There Is Fire.
Ouais.
Ou Where There Is Smoke.
Where There Is Smoke.
Ouais. Ouais. And There Is Probably Fire.
Ouais. Dans beaucoup de mes chansons, oui,
ouais,
c'est
dans
clair.
Beaucoup de tes chansons, t'as ce loop-là. Puis t'as... Et donc, je me demandais si, justement, même si t'as emprunté à des influences plus jazz, plus soul, etc., est-ce qu'il y avait aussi des influences actuelles de R&B, de soul trap, etc., comme Brandy, par exemple, qui est genre la queen de vocals.
Ah non, mais je l'adore. Il y a tellement d'influences. Et ça que je trouve... Une chance que je trouve que j'ai eue, c'est d'avoir été initiée à autant de types de musique différents très jeune. C'est sûr que j'ai trouvé des connexions émotionnelles vraiment fortes, que ce soit B.B. King, Billie Holiday, etc. Il y a quelque chose dans, pas juste leur musique, mais dans leur âme, dans les personnes qu'elles sont, qui nous inspirent, qui nous donnent la force et qu'on a envie de puiser là-dedans pour continuer le travail qu'elles ont commencé. Après... Que ce soit... Moi, j'écoute de tout. Mais genre, c'en est presque ridicule. Vraiment, de tout. Les Lauryn Hill, j'ai adoré. Oui. En grandissant, Janet Jackson.
Classique.
Velvet Rope. Brandy, évidemment. Mais moi, j'écoutais du Christina Aguilera, du Britney Spears. J'écoutais du Timberland, du Eminem, du Jay-Z. J'écoutais de tout, vraiment. System of a Down, ils ont une quantité d'harmonie insane. Ça me... du Aznavour jusqu'à de l'opéra, j'aime tout. J'aime tout ce qui me fait... Je vais pas aimer toutes les chansons, mais dans tous les styles de musique, on prend le temps de creuser un peu, on peut se rendre compte que, ah, toi, je connecte avec toi.
Exactement,
c'est comme les humains.
Ouais. Parce que tu vois, de System of a Down, moi, j'écoute pas vraiment tout ce qui est rock, metal et tout, mais de CCT.
Ben voilà. T'as envie de crier avec eux.
Ouais, c'est clair. C'est fou, je l'ai écouté il y a quelques semaines en plus.
Pour vrai? Nice. J'adore, j'adore.
Moi aussi, j'adore. Et pourtant, c'est pas du tout mon style musical, mais il y a certains sons, certaines mélodies avec lesquelles tu vas connecter plus que d'autres.
Vraiment. Elles viennent te chercher. Puis t'as envie de crier, chanter avec eux. Ça, c'est mon rêve de voir tout le monde dans la rue chanter à tue-tête. On a tous nos écouteurs, des fois on a envie de chanter, de danser, on n'ose pas parce que ça se fait pas, mais genre le rêve, imagine une ville, tout le monde se promène chanter partout, ça danse partout, ce serait fou.
Mais il y a des mimes sur Instagram en plus là-dessus où s'écrit moi dans le métro avec mes écouteurs puis tu fais une tête de mort et en fait ce que t'écoutes c'est de l'afrobeat.
Ouais, puis en réalité là t'es en train de danser dans ta tête, fais tous les moves. J'adore le rêve.
Mais alors tu vois, t'as toutes ces influences là. Et en tant qu'artiste, je me demande comment est-ce que tu fais pour à la fois emprunter à ces influences-là et des grands noms de la musique qui ont vraiment leur patte artistique, ou quand t'entends du Nina Simone, tu sais que c'est Nina Simone, tu vois, tu peux pas te... Et ton album, il est hyper bien exécuté.
Merci.
Et tu vois, on pourrait dire un peu, bon, Dominique, on lui donne un 20 sur 20, certes, mais en même temps, c'est indéniablement toi. Tu vois, t'as vraiment trouvé ta touche artistique. Et quand on écoute un Love Takeover, par exemple, ou même tes reprises de Feeling Good ou Strange Fruit, on sait en fait que c'est Dominique Fils-Aimé. Donc, comment est-ce que t'as fait pour ne pas te perdre dans juste une parfaite exécution ou une parfaite reprise de quelque chose qui existe déjà, et vraiment trouver ton identité artistique? Parce que je pense que c'est quelque chose qui... ben, peut-être fait peur ou qui nourrit l'anxiété de beaucoup d'esprits créatifs.
Ouais, je peux comprendre pourquoi. C'est une, d'après moi, c'est peut-être la tâche la plus importante, de se donner le droit d'être nous-mêmes, de s'assumer. J'ai quand même une chance dans le sens où, ben, chance, malchance, dépendamment des contextes, je suis pas la meilleure actrice, je suis pas la meilleure à faire semblant. Donc, il y a un bout de temps, j'ai un peu abandonné d'essayer parce que, bon, les résultats n'étaient pas terribles. Et de juste m'assumer, voilà, ma voix sonne comme ça, elle sonnera jamais comme celle de quelqu'un d'autre. Je m'extase facilement devant plein de choses, mais j'ai jamais une envie d'être cette personne ou de posséder forcément quelque chose d'autre que ce que j'ai. Donc, je pense que d'être ancrée dans... la gratitude de juste, j'ai ce que j'ai. Je peux pas avoir ce que les autres ont. Je peux juste célébrer ce que moi j'ai, créer avec ce que j'ai, tous les outils qui sont à ma disposition. Au début, tu vois, tu te sens limité, mais en réalité, c'est là que t'es le plus libre. C'est là que t'as le plus d'espace. Je sais que je serais pas Céline Dion, donc même quand je chantais une chanson de Céline Dion, j'essayais pas de copier Céline Dion. J'essayais de voir comment est-ce que moi, ça me fait du bien d'utiliser ces sonorités ou cette émotion-là à ma manière. C'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de facilité à faire dans la musique et que de cette leçon-là, j'essaie de la transposer le plus possible dans la vie parce que ça s'applique à tout. Mais s'il y a une place où on peut bien se donner la liberté, c'est dans les arts parce que c'est ça le but, en fait. Ouais. C'est d'être toi et ton authenticité fera de toi une nouvelle voix, quelque chose qu'on n'a pas entendu avant. Et c'est ça le but. Puis se dire, ça va forcément résonner avec quelqu'un quelque part.
Et d'ailleurs, ça me fait penser à une de tes chansons, Birds. Je sais que tu en as parlé avec le host du podcast Joy Sound. Et j'ai particulièrement aimé ce podcast parce que vous avez vraiment été en profondeur dans plusieurs titres de tes albums. Et donc, dans Birds, tu dis... Alors attends, il faut que je retrouve la ligne. Là.
Oh, vas-y, moi en plus, je ne sais même pas ce que je disais.
Ah oui, voilà. Tu dis « The sound of the birds taking off scared you last night, though they were right to leave, right to use their wings to fly. » Donc, en gros, ça fait « Le son des oiseaux qui s'envolent t'ont effrayé la nuit dernière, mais ils avaient le droit de partir, ils avaient le droit d'utiliser leurs ailes pour voler. » Et tu disais que ça décrivait un peu la peur que les autres ont lorsqu'ils voient une personne qui est libre d'être elle-même. Ça les effraie parce que je pense, parce que ça les renvoie à leur propre besoin de liberté qu'ils n'exercent pas. Tu parlais aussi d'exprimer la liberté de créer de l'artiste. Donc, ça rejoint ce que tu venais de me dire. Mais moi, je le voyais un peu comme... Moi, la raison pour laquelle elle m'a touchée cette chanson, c'est parce qu'il y a une vraie aspiration à être libre. Et donc, ça traduit un peu notre propre peur à nous être libre, tu vois, en tant qu'artiste, je veux dire. Ouais. Notre propre liberté de créer. Et comment on fait, alors, dans ce cas-là, si oui, avoir son identité artistique, c'est s'autoriser à être soi-même, et comment on fait, en fait, pour arriver à cette autorisation et être comme les oiseaux que tu décris dans ta chanson, tu vois.
Je pense que la première étape, c'est de créer pour soi-même. Créer sans aucune attente de vendre, de faire même écouter à qui que ce soit. Tout ce que j'ai créé, toutes ces nuits que j'ai passées à chanter au début, à créer des harmonies, à en fait découvrir mon style sans même le savoir, le créer de toutes pièces, c'était pour moi. Et donc, et de ne pas se juger en fait dans ce processus. Donc, se le faire pour nous-mêmes et se donner la liberté, déjà juste nous, de ne pas nous juger, aller chercher vraiment ce plaisir, cette joie ou un sentiment de légèreté. Il y a quelque chose qu'on crée de particulièrement agréable et de s'installer dans ce sentiment-là et de le cultiver. Parce que plus on le cultive et plus on est bien dans cet espace de création, plus on se relâche et on se donne le droit de le faire et on aime probablement de plus en plus ce qu'on fait parce que c'est authentique, c'est sincère. On se dit pas forcément « waouh, ça vaut, faut que j'aille tout de suite le vendre, ça, c'est incroyable, il faut que tout le monde le voit ». Juste tu dis « ah, je l'ai créé, avant il y avait rien et maintenant il y a quelque chose ». Juste ça, c'est magique, donc de se donner le droit de cultiver ce moment de joie.
So the sound of the birds taking off scared you last night. Though they were right to leave, right to use their wings to fly. So the sound of the birds taking off scared you last night. Though they were right to leave, right to use their wings to fly. I just can't figure out, is it too late or too early? Is it right on time? Could it be right on? If the crow said it right, we could move out by dawn early. Could be right on time. Could be right on.
Ça a duré un bon 2 ans, en fait, entre le moment où j'ai eu mon burn-out et la voix, en fait, à peu près, 2 ans, 2 ans et demi. Et tout ce que je me rappelle, c'est de progressivement sortir de la douleur à travers des moments de bien-être que la musique me procurait nuit après nuit. C'est comme si c'était une longue nuit qui est devenue un matin. Et c'était vraiment, je faisais de la musique toute la nuit jusqu'à ce que je m'endorme sur le sofa. Et là, parce que je voulais pas aller me coucher dans mon lit, je voulais pas arrêter de faire de la musique. Et là, je me réveillais peut-être 2-3 heures plus tard le matin et là, je continuais. Et c'était devenu comme une obsession. J'allais dormir l'après-midi, donc c'était très flou, mais c'était vraiment... Vu que j'avais rien d'autre à faire et d'avoir pu me lancer à 1000% dedans, sans horaire, sans restriction, sans rien, ça a été un des plus beaux cadeaux, en fait, que la vie m'a fait. Ça a été la période la plus douloureuse et en même temps, celle où j'ai le plus appris, le plus grandi, je me suis le plus découverte et je me suis le plus occupée de cultiver ce qui me faisait du bien pour arriver où je suis aujourd'hui. Oui. Donc, je te dirais que toute cette phase-là était une nuit dont je me rappelle particulièrement bien.
Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la nuit, justement? Pourquoi
le silence. Le silence et l'absence d'humains qui veulent des choses.
L'absence d'interruption.
Ouais, vraiment. T'as l'impression que le temps est infini la nuit. Ouais. J'ai vraiment ce feeling, chaque fois, peut-être 10, à partir de 10-11 heures, c'est comme si officiellement, là, j'avais jusqu'à la fin des temps. Parce que tu vas pas tenir plus que, disons, 7-8 heures. Donc, même si je finis à 5-6 heures du matin, j'ai quand même eu zéro interruption, silence total, C'est, il y a quelque chose de magique vraiment dans la nuit. Puis le soleil m'active trop aussi. Je suis trop heureuse qu'il y a du soleil. Je veux faire plein de choses. Je veux sortir et tout. Donc, ouais. La nuit, c'est magique.
Mais c'est marrant que tu parles de silence parce que justement, tu utilises ta voix littéralement comme un instrument. C'est ton instrument premier parce que voilà, t'es autodidacte. Puis t'as pas appris à jouer d'un instrument autre que justement à manier ta voix. Et mais tu utilises aussi beaucoup les silences. Et pour toi, les silences sont... J'ai encore entendu ça dans une de mes interviews que j'ai écoutées frénétiquement pendant 10 jours.
Tu les connais mieux que moi, c'est génial.
Mais pour toi, les silences sont aussi, constituent aussi un instrument. Et ça m'a rappelé une newsletter à laquelle je suis abonnée. Donc c'est un journaliste, je pense à un New York qui s'appelle Rob Walker. Et sa newsletter, elle s'appelle « The Art of Noticing ». Et en fait, il y a quelques semaines, il a donc envoyé une newsletter sur le fait de se taire, sur le fait d'arrêter de parler et de faire silence, et de à quel point ça peut améliorer notre perception des choses et nous rendre plus attentifs et donc nous rendre plus créatifs. Et il prenait l'exemple d'un compositeur canadien, somehow, qui est aussi professeur de musique. Et en fait, lui, il impose à ses étudiantes et étudiants à ne pas parler pendant 24 heures.
Nice.
Et après ça, bon, au début, il trouve ça dur. C'est dur. Enfin, personne ne fait ça. Il ne peut parler pendant 24 heures. Tu le fais? Ok, il faut que tu me dises un peu c'est quoi ton ressenti là-dessus. Parce qu'apparemment, c'est très bénéfique. Puis, tu arrives à te rendre compte de certaines nuances dans une voix à l'heure d'une conversation, ou même tu perçois des bruits au quotidien que tu percevais pas avant. Et donc, du coup, ouais, ma question, c'était, est-ce que t'as déjà essayé? Mais oui, t'as déjà essayé. Et donc, qu'est-ce que ça fait?
Ça fait du bien. Les premières fois, j'étais plus jeune, tu te rends compte de combien de fois tu parles pour rien dire. Ou, tu vois, qu'en réalité, même à toi-même, des fois, tu vas être à la maison en train de faire un truc, genre, ah, ta. Tu sors les sons sortent seuls. À la longue, ça devient juste un moment où, oui, tu parles pas, mais tu parles toujours. T'es dans ta tête, ça se passe toujours.
Ouais.
T'envoies des énergies, il y a plein de manières d'interagir avec les gens. C'est souvent des moments que je vais passer plus seule, par contre. Donc, vu que je suis quand même introvertie au niveau de... Pour me ressourcer énergétiquement, moi, j'ai besoin de ça. Mais en même temps, j'adore les gens. Et j'ai découvert, j'avais une forme d'addiction des fois, aussi aux interactions sociales. J'adore rencontrer des gens. Je trouve les humains fascinants. Je trouve c'est un univers entier, chaque personne. Donc, c'est waouh. Tu as envie d'en connaître plein et de t'abreuver de ça partout.
Ouais, je connais ça.
Oui, c'est ça. Ben oui, ton podcast explique ça. Donc, je pense que c'est ça, le fait de pouvoir après se ressourcer seul et de passer de temps en temps des moments en silence. Ça faisait un bout de temps que je n'avais pas fait, je l'ai fait en décembre. Je pense que j'ai fait 2 jours et ça m'a juste fait du bien en fait.
Donc 2 jours sans parler.
Ouais, mais tu préviens les gens parce qu'après ça, c'est... Tu vois, parce qu'il faut aussi couper quelque part le sel. Parce que c'est une chose de ne pas parler, mais de ne pas communiquer aussi par écrit, de vraiment juste rester seul avec soi-même. Mm-hmm. Ça fait du bien. Ça nous... permet de se ressourcer vraiment et de rentrer des fois aussi dans des pensées auxquelles on aurait peut-être prêté attention, mais on ne serait pas rentré aussi profondément dedans. Mmh. On ne serait pas parti aussi loin avec, et ça leur donne l'espace, en fait.
La première fois que tu l'as fait, ce n'était pas angoissant?
Non.
Ah ouais? Ça t'a pas
peur, angoissé
de... de rester seule avec mes pensées, de devoir confronter tout le caca, là. C'est un peu...
Ouais. Mais moi, je m'entertain beaucoup, en fait.
Ah ouais?
Je pense aussi qu'il y a une partie... Si je n'étais pas angoissée à ce moment-là, c'était parce que j'allais pas aussi loin regarder des choses que j'avais pas envie de regarder. Je restais dans le plaisir un peu, dans la légèreté, dans des réflexions peut-être plus externes. Et c'est à travers la thérapie que j'ai vraiment commencé à affronter certaines choses et à confronter certaines pensées. Donc, quand j'ai pu le refaire par la suite, beaucoup de ces endroits plus dark étaient déjà observés et j'avais déjà l'habitude d'aller les visiter, d'avoir des conversations, disons, à l'interne par rapport à ça. Donc, c'était plus... Je faisais plus aussi peur. Et aussi, ce que je m'étais rendu compte, c'est que ces endroits sombres, qu'on a l'impression que c'est des manoirs gigantesques, c'est beaucoup plus petit. C'est une petite maison, une petite maisonnette en bois qui ne tient pas trop bien, en fait. Tu vois? Donc,
et c'est la peur qui en fait tout un manoir, tout un château, en fait.
La peur, elle est bonne à faire que les choses sont 20 fois, 100 fois plus grandes. Et c'est ça qui est fascinant et ce que j'adore, en fait, d'aller confronter mes peurs, c'est ça. Dès que j'ai réalisé à quel point chaque fois, c'était, un, t'as ce sentiment de fierté, j'ai vaincu une peur, et deux, lol, c'était rien, en fait. Tu vois, donc ça te donne envie d'aller, ok, c'est qui la prochaine peur? Allez, viens, ouais. Viens que je te confronte, là, tu vas voir, t'es rien, en fait.
C'est quoi ta prochaine peur?
C'est quoi ma prochaine peur? C'est une excellente question. La douleur des gens que j'aime. Que les gens que j'aime, la souffrance des gens que j'aime, ça a toujours été une des plus grandes peurs, je pense. Et je sais pas à quel point ça se confronte, ça s'accepte, ça s'apprivoise, mais ouais. Déjà que la douleur en général, je sais que ça fait partie du processus et de la vie, blablabla. Mais il y en a beaucoup qui me semblent un peu abusés, illégitimes.
Ouais.
Et déjà que ça me fait mal en général, l'idée de combiner ça avec des gens qu'en plus j'aime plus que tout, ça...
Mais en plus, parce que t'es une éponge, t'absorbes, t'es hyper empathique, t'absorbes les émotions des autres, alors forcément, leur peur, leur douleur, ça devient la tienne.
J'aime pas avoir peur et mal, comme tout le monde.
Et c'est fou, mais en fait, c'est fou que tu dises ça, parce que tout à l'heure, j'étais en train de faire la vaisselle, où il fait très intéressant, et je me demandais, justement, c'était quoi ma peur en ce moment, de quoi j'avais peur. Donc, est-ce que c'est les petites peurs superficielles du style j'ai peur des serpents? Et c'est quoi? Et quelles sont ma grosse peur existentielle du moment? Et c'est exactement ce que t'as répondu.
Ah ouais?
Ouais. Incroyable. La douleur, parce que en ce moment, je vis ça. La douleur d'un être très, très, très proche de moi.
Je suis désolée.
Merci. Ça va. Mais, et ouais, je me suis rendu compte à quel point, cette peur-là et la souffrance par laquelle je passe m'a vraiment frappée et surprise de plein fouet. Et j'y avais genre jamais pensé. On pense souvent à « j'ai peur de perdre un proche » ou tu vois, ou « j'ai peur d'avouer telle chose à quelqu'un ». Mais le fait que quelqu'un très proche de toi, une personne que t'aimes, souffre et qu'en plus tu sois impuissante face à cette douleur-là, en fait, c'est terrifiant.
Oh, ça mérite un câlin.
Oh.
Allez, hop. Sans les podcasts, ça arrange tout. Là. Tu peux couper.
Merci.
Plein d'énergie.
Merci.
Oh, ouais, je sens. Pas cool.
Mais t'es là.
Oui, ouais, ouais.
T'es là pour donner de l'amour et de la force.
Ouais, tu vois, on parlait justement avec toi et le fait que tu... Je pense que c'est pas un hasard que t'aies dit ça, tu vois.
C'est clair. Bah oui, t'es clairement une hypersensible aussi, là. Pleine d'empathie.
Ouais. Et en fait, la raison pour laquelle je t'ai demandé de quoi t'as peur, c'est parce que t'as parlé dans un autre podcast du fait que sur scène, tu demandes à tes... Bah, tu laisses déjà beaucoup de place à la musique en tant que telle. Tu vois, tu chantes, etc. Certes, mais... c'est pas comme Beyoncé qui va faire le show, et tu vois. Je veux dire, il y a une vraie, ce qu'on appelle performance au sens propre du terme. Donc, c'est-à-dire de délivrer un acte artistique d'une traite. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu ne veux pas que les gens applaudissent entre les chansons, parce que c'est une expérience, donc c'est une performance. Ouais. Et donc, tu racontais que donc, tu laisses beaucoup de place à chacun de tes musiciens et musiciennes, dont ta batteuse, je me souviens, au concert, elle était incroyable.
Ouais, trop bonne.
Ouais, elle est trop, trop bonne. Est-ce qu'on peut dire son nom?
Céline. Oui, Céline. Elle est incroyable, Céline.
Donc, shout out.
Parce ouais, que, shout out.
Incroyable. Je vais mettre des références
Céline, ouais,
on t'aime. Dans les notes de l'épisode. Et bref, j'arrête de faire mes digressions. Et donc, tu disais que tu laissais place à l'improvisation pour chacun de tes musiciens et musiciennes. À chaque fois que vous montez sur scène, il faut qu'il y ait un petit moment d'improvisation. Et c'est même pas quelque chose qui te déstabilise. Moi, je serais complètement déstabilisée. qu'on ait préparé un show et tout un spectacle, et que là, tout d'un coup, tu voyais ma batteuse qui improvise, je serais genre « What ?»
C'est quoi ça?
Ouais, qu'est-ce que tu fais, Céline? Non, stop. J'aurais trop peur, tu vois. Et j'ai l'impression que toi, justement, t'es passée à travers cette peur-là. Et je me demandais, qu'est-ce qui s'est passé entre la Dominique qui voulait rester en arrière, tu vois, qui faisait la choriste et tout, qui limite voulait être dans les coulisses, à la Dominique qui C'est complètement approprier la scène qui en fait un safe space, qui en fait un lieu de connexion et de partage et de transmission aussi à son public. Tu t'as vraiment pris la scène et tu l'as rendue tienne.
Ça, je pense que c'est un des processus les plus... Si on avait pris la Dominique de l'époque pour lui dire un jour tu vas être sur une scène devant 2000 personnes et tout, comme impossible. Genre, c'était pas... Je voyais même pas dans quel monde. Je faisais choriste, et t'as raison, je rêvais d'être... J'ai déjà proposé, je peux être en coulisses avec le micro, genre.
Ah ouais?
Vois, comme juste faire les sons au loin. Ah ouais? Comme, non, vraiment pas. Les premiers shows que j'avais fait un peu avant la voix, en tant que choriste pour des amis... Mm-hmm. Je vomissais avant de monter sur scène tellement.
Wow.
Tout à propos de ce contexte n'allait pas avec moi. Il y avait un... C'était vraiment... Je partais d'un endroit où déjà, au niveau spirituel, il y avait quelque chose qui connectait pas pour moi dans l'idée de... d'être surélevé sur une scène.
Ouais.
Et la manière que les gens viennent te parler après, comme si mon but, c'était qu'on soit le plus proche possible. Et tout d'un coup, il y avait une espèce d'espace qui s'était créé où les gens, ils te voyaient un peu comme... Tu vois? Et ça me... Je me dis, OK, non, mais c'est le contraire de ce que je cherche à faire. Dans le processus qui m'a amenée où je suis aujourd'hui, ça a commencé, je pense, par déjà me rendre compte que j'avais le droit de faire ce que je voulais. J'avais comme oublié que j'avais le droit de faire ce que je voulais. Donc, sans réfléchir, j'avais imité ce que j'avais vu. Et pourtant, je ne l'avais jamais fait en musique. En musique, je me suis toujours donné le droit de faire exactement ce que je voulais. Ma phrase préférée, je fais ce que je veux. Mmh. Et là, tout d'un coup, j'avais pas pris le temps d'y penser. C'est comme si le fait d'avoir peur de la scène faisait que je voulais pas y penser. Donc j'arrivais sur scène, bonjour, nanana, chanson, prochaine chanson sera, blablabla.
Ouais.
Et je suis comme, mais j'aime pas ça, j'aime pas, je me sens pas à l'aise de parler, je me sens pas connectée avec mon channel, je me sens pas groundée, je dis n'importe quoi, je parle pour rien dire, je me sens interrompue par les applaudissements et je trouvais que c'était bizarre de se faire applaudir tous les 4 minutes. Tu sais, quand tu vas au supermarché, la fille fait sa job, tu l'applaudis pas chaque fois qu'elle sort un truc.
Qu'elle passe un article, ouais, à la caisse.
Ben c'est ça. C'est pour moi, c'est l'équivalent de ça. Genre, non, mais abusé quand même. Donc, je pense qu'il y avait ce côté de... OK, si j'oublie tout ce que j'ai vu ou ce que je sais d'un spectacle, qu'est-ce que je voudrais vraiment? Et ce que je me disais, c'est que j'aimerais que les gens rentrent dans cette bulle avec moi. De la même manière que moi, je ferme les yeux, je voudrais que les gens ferment les yeux. Vraiment, du début à la fin, rester dans une bulle, vivez les émotions, laissez les fréquences vous traverser, déconnectez de vous un instant, de votre physique qui tape des mains, rentrez uniquement dans le ressenti interne. Et à partir du moment où j'ai fait cette demande, ça a été quand même combattu pendant un instant. Mon équipe, les diffuseurs, les gens étaient pas sûrs. Comme, ah, mais tu sais, c'est long, tout en continu, les musiciens n'ont pas de break. Donc, il y a toujours dès qu'on propose quelque chose d'un peu différent, il y a toujours des raisons de pourquoi non. Sauf que, en vrai, dès que tu mets ton pied à terre et que t'imposes, en fait, et que tu convaincs, mais quand t'arrives pas à convaincre, t'imposes, c'est ma vision artistique. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut juste essayer? Voir qu'est-ce que ça donne. Et plus on l'a travaillé, plus c'est devenu ma zone de confort. Ça a été d'abord donc ce rapport avant tout avec moi et la scène. Je pense qu'il fallait que je retravaille, que je reconstruise. Et à travers ça est venue une compréhension de ma relation avec le public aussi, de qu'est-ce que je veux amener aux gens. Vous me donnez déjà énormément juste en ayant choisi d'être assis dans cette salle. Donc, applaudir, c'est comme overkill. Tu vois, tu m'applaudis déjà en étant assis. Donc, voilà. Après, tout ce qui vient est la nervosité, l'impression d'être jugé parce qu'on se juge nous-mêmes. Donc, c'est ce qui nous fait peur avec l'idée d'un micro devant une salle. C'est, et si je rate, et si les gens, ils jugent, ils rient, où ils sont, tu vois. Et en réalité, dès que j'ai réalisé que, en fait, les gens, à partir du moment où ils sont assis, ils t'aiment déjà. Ils sont venus pour aimer. Les gens viennent, comme moi, je vais à un concert, je suis déjà trop contente d'être là, juste d'être là. Genre, oh, trop cool, je vais voir peu importe qui, peu importe quoi, je vais découvrir quelque chose. Même si j'aime pas, je suis contente d'avoir découvert une proposition autre. Donc, de donner un peu de crédit, en fait, que les gens, ils sont pas là pour juger ou pour critiquer. Ils sont venus profiter d'un moment avec d'autres gens dans une salle devant de l'art. Donc, ça m'a un peu relaxée aussi au niveau de... Pff, OK, puis moi, en fait, tout ce que je peux faire, c'est faire de mon mieux. ça va connecter avec qui ça connecte. Peut-être pas tout le monde, mais de pas voir le public comme un ennemi. Au contraire, c'est juste plein d'amis qui sont venus pour partager un moment. Ouais. Et ça enlève la pression, en fait, vraiment.
En fait, t'arrives à présumer que ton public aura pas d'attente. Je pense que c'est... Beaucoup d'autodidactes vont se dire... vont plus s'autoriser à se dire « je fais ce que je veux » parce que, justement, ils n'ont pas été formatés dans, tu vois, un conservatoire. Ouais. Et en fait, ça me fait penser à Ibrahim Malouf. Est-ce que tu le connais, ça?
Oui.
Un trompettiste.
Incroyable.
Et il a écrit un livre sur l'improvisation, sur le pouvoir de l'improvisation. Et il était passé dans un podcast. Maintenant, tu sais que j'écoute énormément de podcasts.
Je me doute.
Donc, le podcast s'appelle Jean. Et il disait que, justement, les autodidactes vont plus s'autoriser l'improvisation et le truc de « je fais ce que je veux » parce qu'ils n'ont pas été formatés. Et que c'est ça qui rend la beauté de leur art. Et donc, il parlait plus spécifiquement des musiciens, donc la beauté de la musique, parce que... Ben, en étant plus vulnérable, t'es juste plus humain. Et donc, si t'es plus humain, ben forcément, tu vas connecter avec d'autres humains.
Oh, c'est beau, ça. Ouais, je suis totalement d'accord. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça, en fait, de manière générale. Après, autodidacte ou pas, tu sais que t'as dit le public qu'il n'ait pas d'attente, en fait, que de prendre pour acquis qu'il n'a pas d'attente. Ben, en fait, c'est peut-être qu'elle en a, mais elles ne m'appartiennent pas. Ça leur appartient, tu sais, donc c'est... Même chose pour le formatage de l'école. Tu peux prendre, il y a tellement d'outils là-dedans. Après, c'est est-ce que tu veux tout prendre, incluant les limitations, ou prendre les outils avec lesquels tu vas t'amuser. Je pense que c'est autodidacte ou pas, c'est toujours une question de s'autoriser à se lâcher et aller explorer autant que possible. Ce qui est peut-être un peu plus difficile quand on nous a formaté, comme tu dis, à certaines choses. Parce que souvent, quand j'improvisais au début, on me disait... « Ah, mais je proposais un truc au band » et on me disait « ça se fait pas ».
Ouais, c'est ça, exactement.
Je dis « ben, je viens de le faire ». Donc, « ouais, mais ça marche pas ». Je dis « mais pourquoi ? Pour qui ? De quoi ?» Puis plus j'avançais aussi par rapport au jazz et à ma compréhension du jazz, plus je me suis rendu compte qu'il y a eu une académisation du jazz qui s'est passée, mais le jazz, à la base, n'était pas écrit dans des livres. Il était vécu dans des émotions par des gens qui créaient librement. Et après, on est venu transposer ça dans des livres pour dire voilà ce que le jazz est techniquement, au niveau technique. Mais pour moi, ce sera jamais quelque chose de technique, ce sera toujours quelque chose de ressenti. Donc quand les gens me disaient « ouais, mais c'est pas du vrai jazz », je suis comme « ben, moi je me sentais parfaitement libre quand j'ai créé comme je voulais, avec tout ce qui me passait, en mélangeant tous les styles. Donc dans ma quête de liberté, c'est du jazz, c'est ça pour moi le jazz en fait. Mm-hmm. Donc je pense que c'est la même chose, autant au niveau... jazz, création musicale, que l'improvisation libre et la liberté qu'on se donne.
Sweet and fresh. sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the cross to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun. For the sun to rot, for the trees to draw, the trees to draw straight. Strange and bitter.
Bon, je pense que c'est le moment de résumer un peu ta trilogie. Ouh. Parce que j'en ai parlé au début, mais Dominique, t'as vraiment pensé minutieusement et intellectualisé en fait cette trilogie d'albums. Donc, Nameless, Stay Tuned et Three Little Words. Non seulement on peut les écouter les uns à la suite des autres, mais aussi on peut les écouter de manière cyclique parce que la fin du troisième album est directement liée au début du premier album. Donc, oui. Essayez-le, c'est incroyable. Et donc, c'est une trilogie qui a pour but d'amorcer une guérison collective, on va dire, des traumatismes qui jalonnent l'histoire des Noirs dans les Amériques. Et donc, si je peux résumer chacun des albums, il y a d'abord Nameless qui parle de la douleur, des blessures liées non seulement à la traite des Noirs, mais à la mise en esclavage et toutes les cruautés qu'on a subies et qui ont été infligées sur nos corps. Donc, les influences vont être plus du blues, donc comme j'ai nommé tout à l'heure avec Nina Simone, Billie Holiday, ta reprise incroyable de Strange Fruit. Et donc, la pochette de l'album est bleue, parce que le bleu, c'est la couleur de la mélancolie, mais aussi de la douleur, des larmes, de la peine. Et le second album, c'est Stay Tuned, qui amorce un vent de révolte, de révolution pour l'émancipation des Noirs. Donc, non seulement la libération de l'esclavage, mais aussi la lutte pour nos droits. C'est une révolution que tu voulais notamment porter par des femmes artistes, mais aussi activistes comme Maya Angelou, qui est l'une de mes storytellers préférées au monde. Si. J'adore Maya Angelou.
Je l'aime d'amour.
Donc, pour ne citer juste Maya, si tu nous entends quelque part. Voilà, on te rend hommage. Et donc, dans cet album-là, il y a plus des influences jazz et soul, et donc la pochette est rouge pour justement un peu représenter ce feu de d'une révolution qui gronde. Et après la révolution vient le temps et la nécessité de guérir, d'apaiser justement les tensions, bien qu'il y ait toujours des luttes, beaucoup des choses encore à accomplir, mais on prend le temps quand même de célébrer nos acquis puis de penser nos plaies. Et donc tu le fais grâce au troisième album, Three Little Words, c'est celui de la joie, donc il y a des influences plus funk, la pochette est jaune, et moi c'est un peu une métaphore sonore du Black Joy, tu sais.
Oui.
Et voilà, est-ce que j'ai bien résumé?
Tu as très bien résumé ça.
Et donc, ma question par rapport à ça, c'est, oui, on parle d'une guérison par ce loop, par ces répétitions, par les fréquences et les vibrations qu'il y a dans chaque album. C'est intellectualisé, mais il y a aussi toute une démarche intuitive aussi, j'imagine, dans la façon dont tu l'as créé, parce que tu vas répéter des sonorités, et puis ensuite tu vas apposer des paroles derrière. D'ailleurs, ça me fait penser un peu à Masego, tu vois, ou pas, celui qui fait le...
Oui, oui, oui.
Attends, c'est quoi cet instrument déjà? Celui qui chante « Ta-da !»
Oui, mais fait, je sais très bien ça. De qui tu parles.
Et un saxophone.
Voilà.
Il joue du saxophone. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça que tu fais. Tu vois, tu fais des mélodies, puis ensuite voilà, avec tu fais des arrangements avec tes musiciens, puis là tu penses à une ligne, puis tu fais des répétitions, etc. Donc il y a toute cette musique là qui passe par ton corps, puis il y a vraiment une sensation physique qui s'en dégage, de guérison. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est en quoi ça t'a guéri, toi? Quelle est la petite histoire, en fait, dans la grande histoire? Parce qu'il y a beaucoup de chansons, dont moi, mes préférées, c'est Home to Me ou Take Me Home, je ne me rappelle plus.
Home to Me.
Home to Me. Mm-hmm. Et la deuxième, c'est une du deuxième album qui est Old Love. Et ça parle d'amour, en fait.
Il y a toujours différents degrés de lecture. J'essaie le plus possible d'en intégrer. Les histoires d'amour, c'est souvent en premier lieu ou en vrai avec moi-même. D'apprendre à s'aimer, d'apprendre à s'accepter, s'accueillir tel quel. Je trouve qu'on a souvent... on dirait que... Bon, ça va sonner mal, mais c'est comme s'il y a plusieurs personnes dans notre tête. Ouais. Et on a autant... cette personne qui peut nous parler mal ou nous décourager ou être plus down. Des fois, on veut la faire taire tout le temps ou genre l'éloigner, alors qu'en vrai, il faut l'écouter. Qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu me racontes là? Genre, je suis pas d'accord, mais vas-y, parle. On se parle un instant. Après, on comprend qu'il y a peut-être un besoin qui n'est pas rencontré à travers ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller apaiser cette personne? Après, j'ai beaucoup de conversations internes, dépendamment des moments, avec... Il y a deux personnes clés pour moi. Quand, par exemple, il y a quelques mois, j'avais un show pour une raison inconnue. J'avais pas envie cette journée-là. J'étais pas dans le mood. Et j'étais dans la salle d'attente, dans mon dressing room. Et à ce moment-là, je vais aller parler à l'ado en moi. Et l'adolescente, elle débarque et elle est genre, oh my god, c'est ça ta vie? Tu te fais payer pour chanter des chansons? T'as un appart à toi toute seule que tu payes, t'as tout ce que tu veux, genre, tu vois, oui, t'as des problèmes, mais genre, en vrai, ta vie est cool, là. Tu vois, donc, il y a cette espèce de retour, de communiquer avec elle, et souvent, elle me ramène à l'ordre de genre, hey, ta vie est trop nice. En fait, bravo, genre, vas-y, lâche pas, moi, je dis, waouh, regarde-moi cette tenue trop cool, regarde-moi ces gens trop nice autour de toi. Elle me ramène à l'ordre, et l'autre côté, il y a, quand j'ai l'impression que quelque chose me pèse ou me dérange, je demande à la personne de 80 ans, est-ce que tu t'en rappelles? Est-ce que ça te dérange encore? Et souvent, elle me dit non, je sais même pas de quoi tu parles. De temps en temps, elle va me dire oui, ça, je vais m'en rappeler, fais quelque chose. Donc, ça te permet de mieux choisir les combats aussi et de relativiser encore une fois les hurdles que, entre guillemets, que la vie peut nous amener. Donc, dans Old Love et Home to Me, c'est des conversations un peu par rapport à ça. Donc, Home to Me, c'est vraiment « Came home last night, find myself waiting on me », de rentrer à la maison et de me retrouver, d'avoir ces conversations difficiles qu'on a à faire des fois, une fois qu'on est tout seul à la maison le soir ou après une tournée où tu as été dans plein d'hôtels loin de la maison. Et en fait, là, tu te poses avec tes valises, tu te retrouves vraiment, tu te re-ancres dans ton chez-toi, tu vois, tant physique que non physique. Old Love, c'est une autre histoire, par contre, qui est... Oui, il y avait cette notion de relation amoureuse, mais il y avait aussi, à la suite de... C'était après Nameless, après Stay Tuned, c'était une chanson transitoire entre les deux qui amène vers la joie. Et il y avait... J'étais allée aux États-Unis me promener un peu, j'ai beaucoup connecté avec LA, où j'ai fait le vidéoclip pour une des chansons. Et il y avait cette idée de... I'm all over you, just like my hands used to be. C'est que les gens le veuillent ou non, on est là. Communauté noire, forte, affirmée, on est all over, comme nos mains ont été là pour construire cet empire. Mais maintenant, on est, tu vois, et ce vieil amour, cette espèce de colonialisme, patriarcat, etc., c'est passé date. De maintenant, nous reconstruire notre propre identité, de tenir dans notre fierté, dans tous les accomplissements qu'on a fait et qu'on va faire et qu'on continue à construire. Donc, c'était une espèce de célébration de vouloir une forme de brisure avec un passé que je pense qu'il ne faut jamais oublier, mais qu'il faut surtout pas oublier que c'est pas là que commence notre histoire.
Mm.
Pour moi, il y a cette idée de, c'est, ça fait partie d'un des amoureux, disons, tu vois, toxiques.
Ouais, ouais, c'est ça, se défaire en fait d'un amour malsain qu'on pourrait appeler genre qui se manifestait par une sorte d'assimilation ou de vouloir correspondre à des critères de beauté blancs occidentaux,
tout
ou,
ça.
Tu vois, de vouloir coller en fait à ce qu'ils sont.
Ouais, exact.
Alors, en fait, on a notre propre
beauté, identité, notre propre ouais. beauté. Et pour moi, c'était aussi à partir de ce point-là que, autant que dans la trilogie, dès le départ, c'était retracer les émotions qui ont créé des styles musicaux à travers l'histoire des Noirs, donc les émotions douloureuses du blues, la révolte du jazz, etc. Je voulais qu'il y ait une coupure à ce moment-là où ce soit, ok, maintenant on va cueillir encore plus loin que ça, parce que oui, les styles musicaux qui sont là, tu vois, c'est oui, le blues, etc., ça a été créé, style afro-américain qui est apparu dans ce temps-là, mais même ça, ça puise ses racines beaucoup plus loin dans la royauté même africaine, d'où vient le berceau de notre humanité et de notre culture. Donc, c'était cette envie de, toi, t'es juste un des amoureux qui a été toxique, mais nous, on est beaucoup plus forts et notre réalité, notre histoire est beaucoup plus longue et riche. Et ça m'a donné une espèce de renouveau pour pouvoir attaquer le troisième album. So you see the hatred fading away, 'cause you got none on me. I got all over you, over you. Yeah, I'm all over you, over you. Yeah, I am all over you.
Synesthésie.
Oui.
Est-ce que tu es synesthète?
Oui.
Ah,
moi, je vois voilà. les couleurs et les,
okay.
les couleurs des sons.
Ouais. Ouais. Ben, ma sœur aussi.
Ah ouais,
ouais.
Trop cool.
Ma petite sœur, elle est synesthète. Et je voulais te poser la question parce que ça me frappait. D'abord, pour expliquer ce que c'est la synesthésie, donc c'est quand on peut associer différents sens. C'est-à-dire que quand un sens est activé, ça va automatiquement activer un autre sens. Ce qui fait qu'il y a des personnes, comme ma petite sœur par exemple, qui voient les chiffres en couleur.
Oh, trop cute.
Et donc, chaque chiffre est associé à une couleur.
Wow.
Et pour elle, quand on lui dit 7 plus 5, ben, elle sait que ça fait... Désolée Eva, je vais dire n'importe quoi. Mais elle sait que ça fait vert et que ça correspond au chiffre vert, donc ça lui permet...
Wow.
C'est une autre méthode, c'est une autre façon de penser, quoi.
Ouais.
Et la synesthésie, il y a aussi des gens, par exemple, qui vont ressentir une forte sensation, que ce soit au bras, à la main, enfin, à la cheville,
ouais.
en fonction d'un certain instrument de musique.
Mm-hmm.
Donc, ouais. c'est fascinant. Et quand j'écoutais les interviews où tu disais que, voilà, tel album, c'est jaune, le premier, c'est bleu, l'autre, c'est rouge, que tu as quand même fait une recherche sur les couleurs primaires et ce qu'elles veulent dire. Mais je me disais, mais c'est sûr qu'elle est synesthète.
Ouais, non, c'est à la base, c'est
ouais.
j'ai toujours associé des styles musicaux, des sonorités ou des instruments... avec les couleurs.
Avec les couleurs.
Ouais. Hein. Et j'ai aussi beaucoup, en fait, mes deux types d'art principaux, ça a toujours été la peinture et la musique.
Mm.
Mais avant tout, ça a été la peinture. J'ai toujours adoré peindre. J'ai commencé ma première trilogie, je l'ai peinte avant de la créer musicalement. Donc, c'est comme de m'absorber des couleurs, des fréquences qu'elle présente pour après les retranscrire en fréquences audio. C'est la même chose, en fait. Ouais. Si on se rend pas compte, mais tout est fréquence. Elles peuvent autant t'amener du bien-être, des fréquences visuelles, genre de couleurs, que de audio, et c'est ce que j'essaie de connecter autant possible.
Est-ce que donc les couleurs secondaires, elles sont associées aussi à, oui, à des sons?
Oui.
Tu peux me dire lesquelles?
Tout est...
J'ai trop envie de savoir.
Tu peux te dire que ce sera associé à la prochaine trilogie.
À la prochaine trilogie. Okay.
Oui, ça sort bien, ça sort bien. Tu pourras me réinviter si tu veux.
Ouais. Je sais pas, j'ai un petit guess que... je sais pas, pour moi, dans ma tête, le reggae, c'est vert. Je sais pas pourquoi.
Ah ouais, c'est vert.
C'est la suite, on
intéressant,
verra.
Intéressant, intéressant.
On verra si j'ai tout faux ou si j'ai bon, en tout cas. J'ai trop hâte de savoir ça.
Toi, tu veux trop un album reggae, j'ai compris déjà.
Donc, en fait, donc, tu vois... Là, tu vois littéralement la musique. Et tu vois, je suis partie à une exposition là, de Jean-Michel Basquiat.
Basquiat, je savais. Tout le monde est allé.
Ouais.
Oui, j'adore.
T'es
allée, depuis que je suis jeune.
Ah ouais, t'as aimé, toi?
Je ne suis pas allée la voir encore.
Ok.
Non, mais j'ai tellement. Je m'appelle, je pense que c'est dans les premiers films que j'avais vus vraiment sur des artistes comme par choix. Et autant que je trouve ça super triste, autant que je trouve ça super inspirant, tout ce génie, tout ce chaos. Cette liberté de vivre dans le chaos. Après, c'est sûr que ça implique plein de choses, mais il y a une grande liberté chez lui qui me rejoint énormément et qui m'a toujours inspirée, ouais.
Ouais, j'imagine que ça doit vraiment te toucher parce que, bon, donc l'exposition au Musée des Beaux-Arts de Montréal, c'était comment la musique influence son art visuel. Mmh. Et moi, j'avais du mal à comprendre, mais je pense que pour des personnes comme toi qui sont synesthètes ou qui sont vraiment touchées par... La corrélation directe entre les sons et les couleurs ou l'art visuel, la peinture, etc., ça doit être quelque chose de très...
Ouais.
Tu dois beaucoup t'identifier.
Après ça, ça va dépendre aussi de chaque... tu vois, de chaque sensibilité aussi. Donc, ça se peut que ça, moi aussi, je me dise « Ah, moi, je les voyais d'autres couleurs, tu vois.
Ouais. »
Donc, je serais curieuse d'aller visiter ça bientôt, ouais, je te dirais.
Je suis sûre que j'ai tout faux avec le reggae et le vert.
Ah ouais, tu penses à moi. Pour moi, le reggae, ouais, c'est un peu orange, pour être honnête.
Ah ouais?
Ouais,
ah,
okay. Il y a une chaleur, là, il y a un truc, tu vois, je sais pas. Mais bon, qui sait?
Qui voilà. sait, on verra. Il me semble que le orange, c'est une couleur secondaire, en tout cas.
Oui, oui, il me semble aussi.
Est-ce que tu as une recommandation de livre pour moi?
Oui, j'en ai une, dont, comme je te disais, j'arrive pas à me rappeler... je me rappelle jamais des noms de mes livres. Je me rappelle de la couverture. Et c'est un recueil de short stories, de nouvelles, écrites par des afro-descendants. C'est des short stories qui sont futuristiques. Donc, c'est un peu comme regarder...
comment ça? Black Mirror.
Voilà. C'est l'équivalent de Black Mirror en livre, moi, je trouve. Super bien écrit, des petits trucs courts qui passent vite. Il me semble que ça s'appelle African Tales, mais quelque chose d'autre. Futuristic. Je vais trouver le nom. C'est une super belle couverture qui est comme une jeune fille, comme astronaute robot, avec des fleurs et des feuilles. Très beau cover.
je pense que j'ai assez d'indices là pour trouver la
ouais,
référence.
C'est ça. En fait, c'est ça. Je voulais faire un jeu, c'est pour ça. Je connais très bien le titre. Ouais. Donc voilà, mais
celui qui trouve l'aura gratuitement.
Oui, c'est ça. J'envoie avec plaisir. Donc oui, ben je vais trouver. Tu pourras trouver le nom et la série peut-être.
Ouais, je ferai ça.
Cool.
De quoi est-ce que tu seras nostalgique d'ici quelques années?
De quoi serais-je nostalgique d'ici quelques années? Je sais pas. Je sais pas. J'ai la difficulté à me projeter dans le futur. J'ai jamais vraiment travaillé à me projeter dans le futur. Je suis pas bonne. Si tout va bien, je serai quelque part où il y a plus de soleil, moins de neige. Et je pense pas que je serai nostalgique de la neige. Donc, en vrai, non, je pourrais pas te dire. Je suis trop dans maintenant, ici. La gratitude d'avoir aujourd'hui, puis que demain m'amène ce qu'ils veulent.
Le podcast s'appelle La Zone, en référence à la sortie de sa zone de confort et à l'entrée dans sa zone de génie. Alors toi, Dominique, qu'est-ce que tu as laissé dans ta zone de confort et qu'est-ce que tu as trouvé dans ta zone de génie?
Dans ma zone de confort, j'ai laissé et je continue à laisser mes insécurités. Parce qu'en fait, elles ne servent à rien. Elles font juste nous ralentir. C'est vraiment lourd pour rien du tout. Et j'ai rencontré dans ma zone de génie, moi, avec toutes mes imperfections, et plein d'amour, beaucoup d'amour pour moi, pour les autres, pour ce que je fais, beaucoup de gratitude. Ouais, je pense que c'est ça, l'amour et la gratitude.
Merci beaucoup, Dominique.
Merci à toi.
Merci à mon invité d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à vous pour votre écoute. Retrouvez toutes les références de notre discussion en barre de description. Si vous aimez le podcast, partagez-le et parlez-en autour de vous, à votre famille, à vos amis et même à votre voisine un peu chelou. On peut aussi s'en parler par mail ou sur Instagram à La Zone Podcast. Prenez soin de vous et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.